Vraiment, c'est bon? Oui.
Bonjour et bienvenue d'abord à Mérin et ensuite à l'église. Je voulais commencer ce culte par une petite question. C'est la slide qui va passer. Quel est le point commun entre notre église et McDonald's? Oui, c'est le M. Non. Bien essayé. On a un slogan qui est assez similaire. Venez comme vous êtes. Effectivement. Exactement. Alors, soyez les bienvenus comme vous êtes. Sentez-vous à l'aise. Enlevez la veste. Enlevez les écharpes. On est là ensemble pour ce culte. Et je voulais vraiment qu'on ait à l'esprit... On est comme on est aujourd'hui et qu'on puisse repartir transformé, ce serait vraiment notre souhait aujourd'hui. Je voulais aussi vous présenter le programme. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est la première fois dans une église aujourd'hui? Alors peut-être, je vais prendre une minute pour prier pour que notre église se remplisse de personnes qui n'ont pas l'habitude de venir dans nos locaux. Seigneur, je veux vraiment te remettre ce temps de ce matin et te prier pour que nous ayons des retardataires. Seigneur, je te prie pour que cette église soit remplie de personnes de l'extérieur, Seigneur. On veut ce culte ouvert sur Mérin et ouvert sur toutes les personnes qui pourraient être de passage et qu'on puisse toucher ce matin, Seigneur. En ton nom, amen. Alors, le programme de ce matin... Il est dense, mais en tout cas, il est vraiment pour notre assemblée. On a un premier sketch, ensuite on va avoir des chants. On va avoir une prière pour les enfants, même si c'est les vacances et qu'on n'en a peut-être pas beaucoup là ce matin pour l'instant. Encore des chants, la lecture du texte, un message qui va être apporté par Philippe. Un temps de prière tous ensemble, un temps d'annonce, c'est aussi la vie de l'Église toute la semaine. On va chanter encore, ça c'est vraiment notre souhait pour ce matin, et une bénédiction pour finir ce culte. Alors sans plus tarder, j'invite Marie-Léa pour le sketch.
Allez. Dernier jour de la semaine, hein, ouais. T'as d'être en week-end? Ah ouais, moi aussi, j'ai atteint. Fou là là, j'ai un programme de folie. J'ai quoi? Ah là là, tournoi de tennis le samedi, restaurant avec les copains. Et après, je vais voir Avatar au cinéma. Il a l'air top. Et toi, tu fais quoi? Un petit café? Ouais. Tu fais quoi? Ah, tu fais ta terrasse. Bien, bien. Et après, t'as anniversaire d'un ami? Chouette, bah ça va. Oh, dis donc, ça va faire la fête, là, ça va se coucher tard? Non? Ah non, tu vas à l'église à Mérin? Ah bah, ça c'est drôle, hein. Dis donc, j'aurais pas pensé que... Pourquoi tu vas à l'église? Tu crois en Dieu? Ouais. Ah, les chrétiens se retrouvent pour vivre un moment ensemble. Parce que tu crois, tu dois te lever les dimanches matins? Ah, oh, ça pique, dis donc, ça pique, hein. Ah, ça pique. Ah, t'es pas obligé. Ah, bon, bah, ça va, alors. Si, quand je fais du tennis, est-ce que je suis bien après? Je suis très mauvais au tennis. Mais alors, quand je joue après, je fais une bonne nuit de sommeil. C'est pareil pour toi? C'est pour ça que tu vas à l'église? Je comprends pas trop. Tu parles à Dieu, tu pries, et tu l'entends te répondre? Ah ouais? Ah, par les textes bibliques? Ah, biblique, Bible. Bible, ah ouais, non, j'ai déjà entendu ce mot, ça m'a toujours hyper intéressée pour aussi ma culture, hein, c'est vrai, je pourrais le lire en « tu me le prêtes, une petite demi-heure » et « ah non, c'est un peu plus gros ». Ah ouais, pas trop du coup, hein. Ah, parce que vous étudiez des passages le dimanche matin, ah ok, maintenant je comprends un peu l'intérêt. Par un professionnel de la Bible, un pasteur. Ok, je comprends l'intérêt là, vraiment. Et là, dimanche, vous faites quoi? La guérison d'un malade. Malade de quoi? Ah, tu veux pas me dire? Ah, tu me fais du teasing, c'est pire qu'Avatar. Ok. Eh bah, allez, je viens. Et puis, vu que je suis sur Mérin, après, tu viens au resto avec nous, entre potes. Allez.
Qui d'entre vous, par hasard, hein, est un ami personnel de Roger Federer? Personne? Un ami personnel, enfin un proche de Roger Federer. Ah, il y a Michaela qui se... Non, même pas. Ok. Ouais. Ben moi, non plus. Mais imaginez un instant que... Ça tombe bien, puisqu'elle a parlé de tennis, que Roger soit un de vos amis proches. Puis un jour, vous devez le présenter, enfin, vous croisez quelqu'un, puis vous devez le présenter à quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous diriez pour le présenter? Hein? Alors vous diriez, ouais, bon, vous parleriez de ses réalisations. C'est un immense champion de tennis, voilà, une carrière exceptionnelle. Donc ça, c'est pour ses réalisations. Et puis, parleriez probablement aussi de qui il est. Ah ben, ouais, c'est chouette. Ça lui est pas trop monté à la tête. Il est resté simple. Et puis la preuve, d'ailleurs, il est resté simple, c'est qu'il est resté mon ami. Hein, c'est pas parce que c'est un champion qu'il parle plus qu'à des gens comme lui, ou qu'à des gens qui ont autant d'argent que lui, ou que sais-je. Alors bon, je ne connais pas Roger Federer, hein, je sais que vous êtes déçus, mais c'est comme ça. Mais je connais Dieu, un peu, un petit peu, soyez modestes. Et puis, le peu que je le connais, ben, je peux vous dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je suis de loin pas le seul à le connaître ici ce matin, et... Je crois que si on se retrouve le dimanche matin, c'est aussi pour se souvenir, se rappeler de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il fait et qu'il fera encore pour nous. Alors c'est un des sens du culte en général, mais en particulier du temps de louange qui s'ouvre maintenant. Et puis on veut le faire avec respect parce que Dieu est présent parmi nous. Il nous écoute. plus fort que ça. Il se réjouit qu'on soit là. C'est même lui qui nous a invités. Alors, comme le dit le premier chant que nous allons entonner, eh ben, nous venons dans sa présence pour chanter ses louanges. Chantons encore l'immensité de la grandeur de Dieu, cette immensité qui se manifeste dans tout ce qu'il a créé et dans son œuvre de libération pour nous.
Tu as tout donné. c'est pourquoi je veux t'adorer.
L'immensité et la grandeur de Dieu s'est manifestée en particulier en Jésus. Et comme on le verra justement dans le message de Philippe tout à l'heure, on verra que Jésus, il fait vraiment très fort et qu'il n'y a personne comme lui.
Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je cherchais personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, creusé. Personne. J'ai creusé, creusé. Personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, fouillé. Personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Le temps pour les enfants d'aller soit à la garderie, soit à l'école du dimanche. Et avant cela, je vais... Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah non, non, je... Et je vais prier pour ce temps. Oui, Seigneur, je peux te remettre cette nouvelle génération d'enfants que tu nous donnes et te prie pour qu'ils puissent à leur tour connaître la vraie liberté, Seigneur, que les moniteurs et monitrices, Seigneur, puissent leur transmettre ta parole, Seigneur, et ta paix aussi dans leur cœur. Je te remets également toute l'assemblée ici présente pour le temps de culte que nous allons vivre ensemble et te remets vraiment le temps qui nous suit pour la prédication, Seigneur. Amen. On entre dans un temps où on va s'attendre vraiment à la présence de Dieu. Donc, on va prendre encore un chant et après, il y aura la lecture du texte.
Alors, parfois, souvent peut-être, même quand on connaît Dieu, ben on peut être découragé, triste, et on a de la peine à croire. Alors, demandons à Dieu, justement, dans le chant suivant, un souffle nouveau pour disposer nos cœurs à entendre sa voix.
Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ta voix. Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Pour toi, Saint-Esprit, viens. souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
Alors, place à la lecture du texte, mais avant cette lecture, je voulais rappeler qu'est-ce qu'on lit déjà. On lit un passage de la Bible qui est la parole de Dieu. C'est pour ça que pour nous, c'est très important de baser les messages sur un texte tiré de la Bible. Et le passage en question, le sketch en a un petit peu introduit le sujet, mais c'est des récits du passé et celui-ci est assez... assez intéressant à se rappeler aussi. Voilà, lecture.
Jésus guérit un homme paralysé. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé porté par quatre d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus, à cause de la foule, ils ouvrent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures, qui étaient assis là, raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient et il leur dit « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Est-il plus facile de dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ?» Eh bien, je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur terre. Alors il s'adresse au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et ils louaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ».
Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver pour ce culte, un culte que nous avons appelé culte découverte, l'occasion de revenir peut-être à des fondamentaux de ce qui fait la foi chrétienne, à savoir l'évangile selon Jésus-Christ. Ce texte de Marc 2, que Marie-Léa a lu avec nous, Marc 2, 1 à 12, ce texte de l'évangile selon Marc, à l'école du dimanche, c'est certainement l'une des histoires les plus appréciées des enfants. En tout cas, moi, pour avoir eu le privilège d'aller à l'école du dimanche il y a longtemps, je crois que c'était mon histoire préférée. Un homme est hissé sur un toit par quatre amis, qui cassent le toit pour descendre leur ami au pied de Jésus, qui le guérit. C'est une histoire qui commence avec un problème, un gros problème. Un homme est paraplégique, et tout paraplégique qu'il est, il souhaite rencontrer Jésus. Et l'histoire se termine bien. très bien même. Le paraplégique rencontre Jésus. Et il s'en va en portant tout seul son matelas. On lit ça comme ça, vite fait. Mais c'est profondément bouleversant, en fait. Les enfants que nous étions, les enfants aujourd'hui, ont un avantage sur nous. C'est qu'ils ont souvent des images dans leur Bible, dans les Bibles pour enfants. Et nous, les adultes, nous avons des fois un peu du mal à comprendre ces récits, mais comme on est des adultes, on n'ose pas le dire. Monter sur un toit, y faire un trou, et descendre quelqu'un sur son matelas, comment est-ce que c'est possible ? Alors c'est sûr que si vous pensez aux lits et aux maisons de chez nous en Suisse, ben c'est un peu dur à visualiser, c'est clair. Mais là, avec Jésus, dans les évangiles, nous ne sommes pas en Suisse. Nous sommes au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, ben les toits, ils sont plats. On vient le soir pour y prendre le frais. On y met le linge, on y laisse tout son bazar, mais les toits sont plats. L'accès au toit, il se fait généralement, comme sur ce dessin, assez précis, me semble-t-il, il se fait généralement par un escalier extérieur. Et c'est certainement comme cela que ces cinq hommes, le paraplégique et ses quatre amis, arrive sur le toit. Il est fait comment, ce toit ? Comme dit, il est plat, sans doute. Certaines traductions dans nos Bibles parlent de tuiles. Mais c'est qu'un même mot grec désigne l'argile et tout ce qui est fait en argile. Les vases, les briques, les tuiles. Probablement que ces hommes était donc sur un toit plat, fait avec de l'argile plaquée sur des lattes en bois. Pas trop difficile à défoncer et pas trop difficile à réparer. Et le lit. Eh bien, quand j'étais enfant, moi, j'imaginais un lit, un matelas de chez nous, Bicoflex. Avec un sommier en fer, un matelas, un vrai lit de chez nous, comme dans ma chambre. Mais non, encore une fois, là nous sommes dans un pays ancien, à 2000 ans de distance, les gens dorment souvent par terre, sur des nattes, comme aujourd'hui un peu partout dans les pays du Sud. L'homme paraplégique, il est donc porté sur sa natte qu'il va pouvoir enrouler et emporter après. Ça, c'est la suite de l'histoire. Mais voilà pour le film des événements. Il faut que nous ayons un peu plus loin maintenant. Pourquoi est-ce que nous avons ce récit dans nos Bibles ? Pourquoi est-ce que l'évangéliste Marc lui donne autant de place ? Marc, c'est un évangéliste qui va très vite dans son récit. Marc vient de donner un titre à son livre. C'est au chapitre 1 et au verset 1. C'est assez logique, quand on commence par le livre, le début du livre, eh ben, on lui donne un titre. Et l'évangéliste titrifie son livre ainsi, « Commencement » de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, l'évangile, evangelios en grec, c'est littéralement la bonne nouvelle. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. ce qu'il va mettre, Marc, dans son évangile, va donc révéler la bonne nouvelle de Jésus. Et justement, le récit de l'homme descendu par le toit révèle qui est véritablement Jésus et quelle bonne nouvelle il nous propose. Voilà donc Jésus qui enseigne la parole de Dieu dans une maison. C'est donc que même pour lui, sa Bible de l'époque, qui n'était constituée que de l'Ancien Testament, c'était quelque chose à mettre en valeur. Il faut lire l'Ancien Testament. Ça vaut le coup. Et Jésus est donc dans une maison en train de lire, d'enseigner l'Ancien Testament. Il est populaire, le texte le dit. Les gens affluent pour l'entendre. C'est un maître, c'est un rabbin, comme ils n'en ont jamais vu jusqu'ici. Un rabbin, un maître, qui enseigne avec autorité, qui ne se perd pas dans des détails sans fin, et un maître, un rabbin, qui n'est pas là pour se faire mousser, mais qui a le souci de l'autre. Ce qui compte pour ce maître, pour ce rabbin, pour Jésus, le Fils de Dieu, c'est l'autre. Mais face à cet homme paraplégique, paralysé, Jésus se révèle comme étant encore beaucoup plus grand que le plus grand des rabbins ou des maîtres. Il lui pardonne son péché. Il lui pardonne son péché. Et là, ça commence à coincer sérieusement. Les maîtres de la loi, ces spécialistes en théologie, ces religieux, les scribes, les docteurs de la loi, ils sont au verset 7 dans notre texte. Ces hommes-là, ils ont raison de dire « Seul Dieu peut pardonner les péchés ». Ils sont dans les clous, ils connaissent leur théologie sur le bout des doigts. Ils ont raison, seul Dieu peut pardonner les péchés. Je peux, moi, pardonner à quelqu'un le mal qu'il m'a fait. Mais je ne peux pas me mettre à la place de Dieu pour pardonner le fait que la loi de Dieu ait été mise de côté, négligée ou transgressée. Ça, moi, je ne peux pas faire. Quand quelqu'un pèche contre un être humain, il pèche en même temps contre son Créateur. Moi, je peux faire en sorte qu'une relation soit restaurée. Je peux y jeter toutes mes forces. Je peux espérer un retour à la paix. Mais je ne peux pas restaurer la relation entre mon prochain et Dieu. Je ne peux pas le faire. Seul Dieu peut pardonner nos péchés. Les religieux ont raison. Et voilà que Jésus dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il se prend pour qui, Jésus ? Il se prend pour qui ? « Tes péchés te sont pardonnés. » C'est facile à dire, ça. C'est facile à dire. Personne ne va jamais monter au ciel pour vérifier que les compteurs ont été mis à zéro. Personne n'en descendra du ciel avec une attestation d'impeccabilité. Bravo Jésus. Bravo. Tu fais fort. Au risque de choquer les gens, tu as dit quelque chose que personne ne peut contester. C'est du bluff. Mais non, c'est pas du bluff. Il est facile de dire « tes péchés te sont pardonnés » parce que personne ne peut rien contester après. Mais ce serait autre chose de dire « prends ta natte et marche ». Parce que si rien ne se passait à ce moment-là, ben on aurait l'air d'un blaireau, d'un bonimenteur. Le risque serait beaucoup trop gros de dire ça et que rien ne se passe après. Là, ce serait du bluff. Mais Jésus prend ce risque. Tes péchés sont pardonnés, mon enfant. Prends ta natte et marche. Ces paroles sont suivies d'effets. Et Jésus prouve par là qu'il n'est pas un charlatan, que ce n'est pas un bonimenteur, que ce n'est pas un blaireau de plus. Il prouve par là, Jésus, qu'il a autorité sur le corps des malades et qu'il a autorité pour pardonner les péchés. Qui est-il donc ? Bien plus qu'un simple rabbin, bien plus qu'un maître de la loi. Il est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas tout dans ce passage. L'évangile de Marc est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle doit se mesurer dans son rapport aux mauvaises nouvelles. Et en particulier ici, aux misères de l'humanité. Et s'il y a un malheur qui saute aux yeux, c'est celui de la maladie. La sclérose en plaques, le cancer, Alzheimer, les accidents vasculaires cérébraux, le sida, les maladies génétiques orphelines. La maladie, elle fait souffrir, et effroyablement parfois. Elle n'a pas sa place dans le monde que Dieu a créé. Elle est là par intrusion. Elle est apparue avec le péché et son cortège de malédictions. Et vous et moi, nous en portons le poids chaque jour que Dieu fait. On ne va quand même pas dire que toutes les formes de vie se valent. On ne va quand même pas dire que les microbes ont le droit à la même existence, à la même légitimité que nous. Nous en souffrons, nous les combattons. Et voilà donc un homme malade, paraplégique, paralysé, qui a besoin de quatre amis, pour se faire porter d'un endroit à l'autre. Visualisez un peu le truc. L'handicap. Besoin de quatre amis pour se faire emmener d'un endroit à un autre. Quel spectacle affligeant. On serait tenté de détourner les yeux, d'autant qu'on se dit « À quand mon tour d'être gravement malade ?» Alors bravo, franchement, à ces quatre hommes qui ne se sont pas désolidarisés de leur ami. Bravo pour leur initiative et bravo pour le toit défoncé. Et bravo surtout à Jésus qui fait que cet homme marche. Mais attention, dans ce miracle ici, nous avons quelque chose qui n'apparaît pas souvent dans les évangiles. C'est que Jésus, là, a vu au-delà du besoin de la guérison physique. Je le redis, Jésus a vu au-delà du besoin de la guérison physique. Vous savez, s'il n'y a pas de Dieu, la souffrance, c'est juste de la malchance. Pas de bol. Tu souffres, tu peux rien y faire. Sans Jésus, nous sommes sans libérateur. Et Jésus ici, il voit au-delà même des aspects psychologiques de la maladie. La solitude, la dépression, la colère, l'amertume, l'envie de mourir. Et il dit d'abord, parce qu'il voit au-delà du besoin physiologique, il dit d'abord, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et nous avons l'impression que sans les critiques des religieux dans ce texte, ben les choses auraient presque pu en rester là. On a l'impression que pour Jésus, c'était le pardon des péchés qui était le plus important, pas la guérison physique. Il guérit pour démontrer qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a autorité pour pardonner les péchés. Mais le plus important pour lui, c'est le pardon des péchés. Pourquoi est-ce qu'avec cet homme paraplégique descendu du toit, Jésus parle d'abord du pardon des péchés? Est-ce que cet homme, il était plus pécheur qu'un autre? C'est possible, le texte ne le dit pas. Est-ce qu'il recherchait plus que les autres avoir une conscience pure? C'est possible, le texte ne le dit pas. Est-ce que c'est un homme qui se culpabilisait à cause de la maladie? C'est possible, le texte ne le dit pas. En fait, nous ne savons pas pourquoi Jésus lui parle de pardon à lui et pas à d'autres. Et j'émets donc une hypothèse. L'hypothèse que j'émets, c'est la suivante. C'est qu'ici, à l'inauguration de l'Évangile, pour dire l'épaisseur, le sens de l'Évangile, Jésus voulait enseigner quelque chose de primordial. D'une part, il voulait lever un coin du voile sur sa divinité. Il est Dieu. Et à ce titre, il est capable de pardonner, de relever, de changer radicalement la vie de celles et ceux qui lui font confiance. Il est Dieu. Et d'autre part, il voulait dire à tous et toutes que certains besoins spirituels bien cachés, parfois enfouis au plus profond de nous, certains besoins spirituels bien cachés sont en fait prioritaires. Prioritaires. Parce que tous et toutes, un jour, nous allons mourir. Un jour, nous allons mourir. D'accident ou de maladie ou d'épuisement total du corps qui s'arrête. Mais tous et toutes, nous allons mourir. C'est le lot des humains. Les problèmes qui sont liés à la santé, nous ne pouvons les résoudre que provisoirement. Nous ne pouvons que retarder l'échéance. Même Monsieur Lazare, que le Christ a ressuscité, a bien été obligé de mourir pour de bon un jour, même lui. Mais quand nous trouvons en Jésus-Christ le pardon de nos péchés, la rémission de nos fautes, alors nous trouvons la paix avec Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est la priorité des priorités. La priorité des questions spirituelles, Jésus l'a enseigné de bien des façons dans la suite de l'Évangile. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne pensez pas qu'à vous remplir la panse, pensez à vous remplir le cœur, les tripes et le cerveau. Il a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme ? On peut être blindé de thunes comme Roger Federer ou d'autres et y laisser son âme. Je ne sais pas si c'est le cas de Roger. La priorité des questions spirituelles. Et le premier besoin de notre homme paraplégique, paralysé, ce n'est pas de retrouver l'usage de ses jambes. C'est frappant, hein ? Son plus grand besoin et notre plus grand besoin, c'est de trouver le pardon de Dieu. Dans cet incident, Jésus se révèle comme le Fils de Dieu. Il révèle aussi quel est le plus profond besoin de l'humanité. Ton plus grand besoin. Ton besoin d'être pardonné, d'être sauvé, d'être rétabli. Puis il y a une troisième chose. Ce récit nous montre comment il faut faire pour avoir le pardon. Comment faire pour être sauvé, pour être en paix avec Dieu. L'évangile de Marc, comme dit, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Une bonne nouvelle qui est annoncée et que nous sommes invités, nous, à accueillir. Mais comment ? Eh bien, nos cinq hommes nous montrent l'exemple. Alors, je vous rassure, il n'est pas nécessaire de défoncer un toit pour être sauvé. C'est même assez déconseillé dans l'absolu. Mais quand même, regardez l'attitude de ces hommes. Ils se rendent à la bonne adresse. Sans tout savoir, sans tout comprendre, ils se tournent vers Jésus. Ils ne savent pas que Jésus dira un jour à ses disciples « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu que par moi. » Mais ils font comme si. Ils font comme s'ils le savaient. Ils vont vers Jésus, ils cherchent à voir Jésus, ils veulent s'approcher de Jésus. Le salut est là en Jésus. Nos œuvres, nos actions, nos compétences, notre famille, nos qualités ne nous sauveront jamais. Jamais. Quand est-ce que vous en aurez donné assez ? Quand est-ce que vous vous serez assez crevé pour espérer mériter le salut que vous ne trouverez pas ? Vous ne serez jamais au bout si vous comptez sur vous. Vous avez besoin de Jésus. Seul Jésus peut sauver. Tout le reste, c'est du cosmétique. Je sais qu'on voudrait, et moi le premier, s'en tirer tout seul dans la vie. Je sais qu'on voudrait gagner par nos mérites une place au paradis. Mais il n'y a aucun autre moyen que Jésus-Christ. Nos cinq hommes ne se laissent donc pas arrêter par le premier obstacle rencontré. La foule les a empêchés de passer, nos problèmes au. Ils iront sur le toit. Tout est bon pour rencontrer Jésus, pour l'entendre, pour le voir, pour être touché par lui. Tout est bon pour le rencontrer lui. Devant quels obstacles reculons-nous ? C'est quoi les obstacles qui nous font ne pas aller vers Jésus ? La religion ? Balancer la religion. Des églises imparfaites, oh, bienvenue au club. Ça fait 25 ans que je suis pasteur, je n'ai vu que ça. Que des églises imparfaites. Celle-là est peut-être un peu... Même pas. Même pas. Des chrétiens qui vous déçoivent, des rumeurs, des faits objectifs sur des excès, sur des abus spirituels, sexuels. Bien sûr, c'est tellement humiliant. Pardon, Seigneur. La Bible est compliquée à lire. C'est un livre d'une richesse incroyable. Il faut commencer par le début, aller jusque vers la fin, s'arrêter de temps en temps, poser des questions, rencontrer des chrétiens qui pourront vous en parler. Vous n'avez pas le temps. C'est quoi vos priorités ? Ces quatre hommes, ils vont à la bonne adresse. Ils persévèrent malgré des obstacles réels et puis surtout, ils ont la foi. Et remarquez que c'est quand Jésus voit leur foi, pas seulement la foi du paralysé, mais leur foi, dit le texte, que Jésus dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est l'enseignement de toute la Bible, depuis Abraham jusqu'à Paul. C'est la foi en Dieu qui sauve, pas l'effort humain. Une foi qui sait sa misère, une foi qui saisit comme une bouée de sauvetage, la main tendue par Jésus-Christ. Une foi qui agit, qui se voit dans les actes, une foi qui est cohérente, une foi qui se met en route, une foi qui se fortifie le long du chemin, pas une foi qui sait tout, une foi humble. Et comme pour cet homme paralysé, dans la série d'événements qui nous amènent du doute légitime à la foi, eh ben, il y a une grande chaîne de témoins, comme pour cet homme. Des gens qui ont prié pour nous, des gens qui nous ont parlé, des gens qui nous ont peut-être invités, parce que la foi, elle ne nous tombe pas sur la tête comme le plâtre d'un plafond défoncé. Notre paralysé, il a entendu parler de Jésus. Sinon, il ne se serait même pas déplacé. Ses amis l'ont amené, ils ont voulu son bien, ils ont voulu qu'il soit sauvé. Et nous de même, nous avons entendu parler du Christ, ne serait-ce que ce matin. Mais peut-être que des amis nous ont déjà aidés à faire une partie du chemin, qu'ils ont prié pour nous, avec nous, qu'ils nous ont parlé, qu'ils ont peut-être même un peu insisté, puis ça nous a chouïa gavé. Ils avaient la foi. Et nous, on a fini par les rejoindre dans la foi. Et nous nous sommes entendus dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et là, nous commençons à marcher dans la vie comme jamais auparavant. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. J'arrive à la conclusion. L'évangile de Marc, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ qui nous offre le remède au mal le plus profond de l'être humain, le péché, ce cancer de l'être. Il nous en offre le remède. Il nous le donne, il le propose, maintenant, ce matin. Je crois même qu'il nous invite, qu'il vous invite à venir vers lui, vers Jésus, pour le pardon, pour la guérison, pour le relèvement. Je crois qu'il nous invite à marcher dans la vie d'un pas nouveau. Je crois qu'il nous invite à amener des amis avec nous, à parler autour de nous de l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Dieu, le pardon des péchés. Est-ce qu'on en a envie ? La vraie question, elle est là. Parce que des cultes, des réunions, des trucs comme ça, on peut faire en veux-tu, en voilà, il n'y a pas de problème, c'est ouvert 24 sur 24. La vraie question, c'est est-ce qu'on le veut ? Est-ce qu'on a besoin de salut ? Est-ce qu'on a soif de Dieu ? Est-ce qu'on a besoin de pardon, de rédemption ? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Moi, j'y réponds pour moi chaque jour que Dieu fait. Mais si pour vous, ce matin, ça représente peut-être un croisement dans votre vie, si vous avez besoin de dire à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton salut, j'ai besoin de ta restauration, faites-le. Passez pas à côté. C'est tout simple, hein. Vous le faites comme si vous demandiez pardon à quelqu'un. Et puis si vous le faites, moi je vous encourage à venir voir quelqu'un de notre équipe ce matin, Cyril, Marie-Léa, la super équipe musicale. Vous pouvez venir me voir, je suis là pour un moment encore. Il y a des responsables dans notre église, j'ai une collègue qui s'appelle Célina. N'hésitez pas à venir nous voir. On voudra prier avec vous si vous le souhaitez et puis vous accompagner dans les premiers pas. Marc, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qu'en faisons-nous ? Amen.
Après le message et ce chant, je vous propose d'avoir un temps de prière tous ensemble. On a pour habitude de prendre un temps en assemblée pour prier, pour essayer chacune et chacun tourner notre regard vers Jésus et aussi d'avoir un encouragement les uns pour les autres pendant ce temps. Ce chant disait, voilà, je mets mon espoir en toi. Je pense que c'est ce qu'on peut avoir à l'esprit pour ce temps de prière. Et je conclurai ce moment par une prière.
besoin de toi, mon désir de marcher avec toi, de te découvrir et de t'aimer, en étant sûr d'être accueilli, pardonné, respecté. Je te dis ma reconnaissance, Jésus. Amen.
Amen. Oui, Seigneur, tu es mon espoir. Merci, Seigneur, de m'avoir pardonné. Merci d'avoir mis, Seigneur, des personnes à mes côtés pour m'apprendre, Seigneur, qu'est-ce que c'est de la bonne nouvelle. Oh, Seigneur, merci. Parce que la restauration, Seigneur, de spirituelle du corps, voilà, de l'intérieur, c'est la chose la plus importante, Seigneur. Parce que comme on a dit tout à l'heure, des gros bois, on a toujours, il y a des gros maladies, il y a aussi des maladies un peu plus. Mais Seigneur, ce que tu m'as donné à moi, c'est la chose la plus grande que je pouvais avoir. Alors, Seigneur, merci pour ce pardon. Merci pour ta vie donnée à la croix. Merci, Seigneur. Et je bénis tous ceux, Seigneur, qui m'ont aidé. Ouais. Qui m'a bien. Amen.
Amen. Amen.
Seigneur, tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Quelle belle illustration ce matin avec ces cinq hommes, Seigneur. Et tu ne te dérobes pas, tu assumes ta responsabilité. Merci. Amen.
Seigneur, je ne te dirai jamais assez merci d'avoir pardonné tous mes péchés et de continuer de le faire jour après jour, Seigneur. Merci de m'avoir donné cette vie nouvelle, cette vie, cette vraie liberté, Seigneur. Merci d'être intéressé par tout ce qui me concerne, d'être avec moi chaque jour, à chaque instant. Garde-moi toujours près de toi, Seigneur, j'ai toujours plus soif de toi. Je te loue, je te bénis dans le précieux nom de Jésus et je te remercie, Seigneur, pour le prix que tu as payé pour me sauver, qui montre aussi l'amour que tu as pour moi. Alors je te remercie une fois encore de tout mon cœur. C'est dans le précieux nom de Jésus que je le fais. Amen.
Amen. Amen.
Seigneur, parce que mes parents m'ont fait descendre de ce toit jusqu'à toi. Tu m'as dit, Seigneur, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Et maintenant, Seigneur, je désire marcher vers toi, pour toi, aller vers d'autres personnes pour leur montrer ce que tu as fait pour moi. Merci, Seigneur. Amen.
Amen. Seigneur, ces quatre amis, ils ont littéralement cassé la baraque pour s'approcher de toi. Et nous, nous n'avons plus besoin de ça, Seigneur. Parce que tu as payé le ticket d'entrée dans ta présence. Amen. Tu l'as payé chèrement, Seigneur, sur la croix. Amen. Et nous voulons te louer pour cela, Seigneur. Nous voulons tout simplement nous approcher de cette croix sur laquelle tu as cloué nos péchés.
Amen.
Merci encore, Seigneur. Merci.
Amen.
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 Oui, Seigneur, je me joins à toutes les prières que tu as pu entendre ce matin. Qu'ajouter de plus, si ce n'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que tu nous as donnée. Et ce n'est pas une seule bonne nouvelle, Seigneur, c'est à renouveler. Il faut prendre le temps de se le rappeler et je te prie de pouvoir réarranger, Seigneur, mes priorités dans une semaine, dans une journée, pour me souvenir de qui tu es, de ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Vraiment, ma prière pour cette assemblée ce matin, elle est vraiment d'avoir un cœur tourné vers toi, Seigneur. Vraiment que tu puisses agir tous les domaines de notre vie, Seigneur. Que ce soit du malheur, mais aussi dans le bonheur, Seigneur, qu'on puisse être reconnaissant pour toutes les bonnes choses de nos vies également, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Église vit des temps forts chaque dimanche. Et nous arrivons gentiment sur la fin de ce premier dimanche de culte découverte. C'est pas le premier, mais... Juste après, on vous propose un café qui sera offert juste à gauche, là dans le foyer, à droite pour vous du coup. Des Bibles sont à disposition pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient en connaître davantage. Et comme l'a dit Philippe, on est aussi à disposition pour échanger, pour toute question que vous pourriez avoir. Et on a une carte du monde qui a été mise aussi pour des personnes de notre Église qui sont loin. Alors loin, ça peut être pas ici à Mérin, mais aussi à l'autre bout du monde, en Afrique. Elle est dans le foyer et je remercie Paul Robert pour ce travail. Je vous laisse aller voir un peu ce que chacune et chacun peut faire dans leur ministère, là où ils sont. Et notre Église, elle vit depuis bientôt maintenant 60 ans et c'est un événement qu'on a décidé de fêter. On a une vidéo de présentation pour cela.
Les M, c'était ça. Mais pas que. Et maintenant, c'est ça. Mais pas que. Ce n'est pas juste une histoire de bâtiment ou d'emplacement. Car ensemble, nous avons appris, nous avons prié et loué. Nous avons partagé. Nous avons été en désaccord. Et nous avons été en accord. Mais il ne s'agit pas que de nous, mais surtout de la gloire de Dieu. Pour les 60 ans de l'EM, nous organisons une fête en son nom et en son honneur. Une église en lumière, une église qui accueille, une église qui va. Pour cela, il y a deux dimensions à cette fête. Une fête pour les Mérinois et pour les membres de l'EM. Pour Mérin, un petit festival sur plusieurs jours ciblant trois générations par jour. Une journée pour les familles, une journée pour les jeunes, une journée pour les plus âgés. Et nous ajoutons à cela un événement pour les voisins directs. Pour les membres de l'EM, une partie fête. Une journée ou une soirée où nous pourrons souffler nos bougies. Alors, pour que cette fête fonctionne, nous avons besoin de vous. Par petits groupes, vous allez travailler sur une journée du festival. Une journée pour une génération. Par exemple, si vous vous inscrivez pour une journée pour les jeunes, vous serez utile à donner vos idées, à trouver comment atteindre les jeunes de Mérin, à organiser et à participer à l'événement avec les Mérinois. Voici donc les 5 petits groupes de création. Ces groupes se réuniront quelques dimanches après-midi, à partir de début mars. Les dates et les heures sont encore à définir. Vous pouvez vous inscrire sur la grande feuille dans le foyer de l'EM, par email au conseil ou en DM sur l'Instagram de l'EM. L'ensemble de ces événements se passeront entre septembre et décembre 2023. Si vous avez des questions, vous pouvez vous tourner vers Michaela qui pilote le projet mais également vers le conseil et les pasteurs qui sont en copilotage. Réjouissons-nous et préparons-nous pour cette année spéciale, pour la gloire de Dieu. Et puis en fait, joyeux anniversaire, les M.
Plus proche de nous, nous avons mardi 21, la semaine prochaine, une rencontre de prière communautaire. 20h15. Mercredi également, nous avons le groupe Chrétien Tout-Terrain, le CTT, qui se retrouve. Alors, on a une slide pour cela. Enfin, le Derby des Bois, Claude. Je ne sais pas si tu veux venir dire deux mots. Si c'est le cas, il faut venir en courant, parce que je crois... Voilà.
Donc, chaque année, ce Derby des Bois... Donc c'est une course populaire et très familiale qui se trouve à Versoix. Et c'est vrai que notre église est régulièrement engagée. J'inscris tout le monde au nom de l'EM. Ça fait aussi un petit témoignage donc de se dire qu'on est présent aussi en tant qu'église et aussi au niveau sportif. Donc ça fait soit on peut marcher, soit on peut courir. Il y a différentes distances. Et puis c'est toujours aussi un petit témoignage. Et chaque année on y est en tant qu'église évangélique de Merin. Alors si ça vous dit de faire un peu de sport, de marcher ou bien de courir, il y a différentes distances, eh bien venez me trouver et je vous inscris. Merci. Donc ça sera le dimanche 12 mars. L'après-midi, donc ça ne remplace pas le culte, donc on peut faire les deux.
Ah, regardez l'agenda familial, mais tu pourras m'inscrire. Et enfin, merci pour votre générosité. Notre église ne vit que des dons essentiellement. On a un panier en bout de salle, également des QR bulletins pour vos dons. On a pour habitude de terminer aussi par une bénédiction, si vous avez bien suivi le programme. La bénédiction, c'est vraiment une parole qu'on veut pour votre semaine, notamment. Et juste avant ça, un dernier chant.
C'est dans 15 jours.
Pas de problème.
Alors voilà, le Seigneur nous relève, nous a pardonné notre péché. Et maintenant, une flamme brille en moi.
pouvez rester debout. Ma bénédiction pour cette semaine, elle est que le Seigneur soit votre boussole, comme on l'a pu le voir dans ce chant, chaque jour de la semaine. Et bon dimanche à chacune et à chacun. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont travaillé aujourd'hui pour ce culte. Vraiment, c'est de la qualité qui est fournie chaque dimanche. Et merci vraiment à chacune et à chacun. Bon dimanche et bon café.